Jean-Pierre Bemba est condamné à 18 ans de prison. C'est le verdict rendu mardi dernier par la Cour pénale internationale. Il restera 10 ans de prison, déduction faite des 8 ans déjà passés en détention à La Haye. Le sénateur congolais a été condamné pour les crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par ses soldats entre 2002 et 2003 en Centrafrique. Comment analyser ce verdict de la CPI? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Patrick Tshibui. Bonsoir, monsieur Tshibui. Patrick Tshibui, bonsoir. Voilà, nous allons le retrouver dans un tout petit moment. Il est chargé de la sensibilisation au bureau extérieur de la Cour pénale internationale à Kinshasa. Professeur Jacques Joly, bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes sénateur et inspecteur général du MLC, parti de Jean-Pierre Bemba. Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et également président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme, basé à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Participez à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
18 ans de prison contre Jean-Pierre Bemba, le verdict est tombé, le sénateur congolais passera 10 ans sous les verrous, déduction faite des 8 ans, passé en détention à La Haye. C'est le résultat de l'arrêt rendu en première instance mardi dernier par la Cour pénale internationale. Il a été condamné pour les crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par ses soldats entre 2002 et 2003. Jeff Ngoy pour les détails.
C'est le 21 mars dernier que l'ancien vice-président congolais a été reconnu coupable de meurtre, viol et pillage en tant que chef militaire exerçant une autorité et un contrôle sur les forces qui ont commis ces crimes. Environ 1500 soldats du mouvement de libération du Congo ex-rébellion dirigé alors par Jean-Pierre Bemba se sont rendus en Centrafrique entre 2002 et 2003 pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'état menée par le général François Bozizé. Ces soldats vont par la suite commettre des tueries, pillages et viols. Le procureur de la CPI avait requis 25 ans de prison au minimum, tenant compte de la gravité des crimes. Mais après les délibérés des juges, la sentence prononcée est de 18 ans. La défense du sénateur a désormais 30 jours pour faire appel de ses verdicts. Lundi, elle l'a fait savoir à travers un communiqué. Elle accuse la Cour d'avoir échoué à garantir ses droits tout au long du procès.
Merci, Jeff Ngoy. Patrick Tshibui, bonsoir, vous êtes en ligne?
Bonsoir.
Vous êtes chargé de la sensibilisation au bureau extérieur de la Cour pénale internationale à Kinshasa. Vous le savez, cette émission est également pédagogique. Pour commencer, comment en est-on arrivé à cette peine de 18 ans contre Jean-Pierre Bemba?
Oui, alors, merci d'abord pour cette invitation. Et j'aimerais aussi saluer chaleureusement les autres invités de ce soir, le professeur Jacques Joly et ainsi que M. Dismas Kitenge. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, les juges de la Chambre de première instance 3 avaient rendu le 21 mars un verdict de culpabilité à l'encontre de M. Jean-Pierre Bemba, et tel que le prévoit le statut de Rome, ces juges se devaient maintenant de statuer sur la peine. Et c'est ce qui a été fait le 21 juin 2016. Mais il est également important, parce que lorsqu'on pose la question de savoir comment on en est arrivé là, c'est l'opportunité qui nous est donnée justement d'insister sur le fait que les juges ont l'obligation de motiver leur jugement. C'est une obligation qui vient du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et au moment où je vous parle, la décision sur la culpabilité du 21 mars, ainsi que la récente sur la peine, ces deux décisions sont déjà sur le site de la Cour pénale internationale. C'est vrai, ce que nous avons, ce sont les décisions en version anglaise, parce que c'est dans cette langue que ces décisions ont été rendues, mais on peut aussi avoir accès à des résumés tant de la décision du verdict sur la culpabilité que de la décision sur la peine, il y a des résumés en français. Alors pourquoi nous insistons sur la motivation? C'est parce que justement, c'est dans la motivation que d'une part la défense, mais également le public en général, va découvrir pourquoi et dans quelles circonstances les juges ont décidé tel verdict, ont décidé telle peine. Parce que dans la motivation, les juges présentent les différents éléments de preuve, les juges présentent les circonstances aggravantes qu'ils ont retenues dans le cas d'espèce par rapport à la peine, et s'il n'y a pas de circonstances atténuantes, les juges le révèlent dans la décision, et donc chacun d'entre nous peut très facilement, à partir de la motivation, tant du verdict de culpabilité que de la motivation sous la peine, savent exactement comment on en est arrivé là. Et d'ailleurs, c'est cette motivation qui permet à la défense d'aller en appel, parce que ce ne sont pas des arguments de fait comme en droit qui constituent la motivation, que la défense, en analysant, peut déceler les points de fait ou les points de droit susceptibles d'être présentés comme arguments au niveau de l'appel.
Alors, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cette peine, Patrick Tchibouhi. Parmi celles que nous avons diffusées sur Radio Okapi, il y a celle, par exemple, du député Henri Thomas Lokondo, qui se dit troublé et découragé par la sentence contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. Il estime que la condamnation est excessive. Il ajoute, je cite, que le procureur Moreno Campo avait déjà en son temps considéré Jean-Pierre Bemba comme, je cite, un trophée judiciaire fixe qui n'a pas pu bénéficier des circonstances atténuantes.
Une fois de plus encore, comme je l'ai dit, la motivation peut permettre de répondre à un certain nombre de questions, notamment découvrir le raisonnement qui ont amené les juges à rendre une telle décision sur la peine. Mais également, il faut retenir que vous avez dans le système de la Cour pénale internationale, au regard du procès équitable, vous avez ce qu'on appelle les voies de recours, notamment le recours en appel. Ça veut dire que lorsqu'une décision est rendue par le premier juge dans le cas d'espèce, la chambre de première instance, chacune des parties, la défense comme le procureur, qui ne serait pas satisfait par rapport à la décision, et dans le cas d'espèce, lorsqu'il s'agit de la peine, qui constaterait qu'il y a une disproportion entre la peine et le crime, chacune des parties peut interjeter appel. Et le recours en appel fait partie des garanties du droit au procès équitable. Donc c'est une possibilité qui est ouverte à chacune des parties. Si la défense estime effectivement que cette peine est excessive, disproportionnée par rapport au crime, la défense a le droit d'interjeter appel, quitte à la chambre d'appel de statuer sur les arguments qui seront présentés par la défense. Et comme on l'a déjà dit, il s'agit d'une première décision pour qu'une décision de culpabilité comme une décision sur la peine soit définitive, il faut que les voies de recours soient épuisées. Soit une des parties ou les deux parties d'ailleurs interjettent appel, alors à ce moment-là nous attendons l'arrêt de la chambre d'appel. Ce n'est qu'à l'issue de l'arrêt de la chambre d'appel que la décision, l'une de ces décisions, les deux décisions deviendront définitives, ou soit alors, si aucune de parties n'interjette appel, à ce moment-là, la décision devient définitive. Donc, les voies de recours, l'appel, est une possibilité ouverte à chacune des parties, et ça fait partie de la procédure au niveau de la Cour pénale internationale, qui est une garantie du droit au procès équitable.
Alors, avant que je ne donne la parole au professeur Jacques Joly, Patrick Tchibouhi, la FIDH, dans son communiqué, a indiqué que cette peine de prison est la plus longue jamais prononcée par la CPI. Est-ce que vous pouvez le confirmer?
Oui, parce que les précédentes peines que nous avons eues, sous 14 ans, 12 ans, nous n'avons pas encore eu une peine de 18 ans qui était prononcée. Mais à vrai dire, il n'y a pas de comparaison à faire, parce que le statut de Rome dit très clairement que la peine doit être prononcée de manière proportionnée à la gravité de crime, de manière proportionnée à la situation personnelle de l'accusé. Donc il n'y a pas de comparaison. Chaque cas est un cas spécifique, et une fois de plus encore, dans la motivation, nous pouvons déceler pourquoi et comment les juges en sont arrivés à cette décision. Donc chaque cas est spécifique et différent, mais c'est vrai que c'est la peine la plus lourde qui a été prononcée jusqu'à présent par la Cour pénale internationale.
Merci Patrick Tchibouhi. Professeur Jacques Joly, vous êtes sénateur et inspecteur général du MLC, parti de Jean-Pierre Bemba. Comment vous avez accueilli ce verdict, professeur?
Merci beaucoup. Je crois qu'il ne s'agit même pas de moi tout seul. L'ensemble du peuple congolais, la classe politique toutes tendances confondues, vous venez de citer l'honorable Henri Thomas Lokondo Yoka, mais aussi tous les Africains qui ont suivi la décision de la Cour se sont rendus compte qu'une fois de plus, nous avons affaire à une cour qui est en train de se rechercher, qui malheureusement est en train de se singulariser par sa négativité. Et en ce qui concerne cette affaire, il y a lieu de remarquer que depuis l'enclenchement, c'est-à-dire la décision d'arrêter M. Jean-Pierre Bemba, devant la chambre, sa présentation devant la chambre préliminaire, l'instruction au niveau de la cour, les différentes décisions de mise à liberté provisoire rejetées, jamais appliquées, la décision de culpabilité et maintenant la peine, et même la communication de la cour pénale et ses affidés démontre d'une approche juridique totalement incohérente. D'abord, lorsqu'on arrête Bemba, on l'arrête comme responsable individuel pénal, donc il a engagé sa responsabilité politique pénale sur base de l'article 25. Et il a tout juste un mandat d'arrêt dans des conditions rocambolesques. Et là, Bemba se retrouve seul en tant que complice ou co-auteur, sans les auteurs principaux, n'est-ce pas, de cette affaire, à savoir les Centrafricains qui étaient impliqués dans cette affaire. C'est déjà la sélectivité, c'est déjà le ciblage, c'est déjà la discrimination. Après, une instruction énormément longue, émaillée de manœuvres des violations de droits de la défense, où le procureur se permet de prendre un certain nombre de décisions. En fait, cette affaire, c'était vraiment le trophée de M. Moreno, et qui a amené une justice spectaculaire et qui s'est caractérisée par l'incohérence et l'incompétence, parce que au lieu de l'article 25, maintenant c'est la Cour qui, au lieu de constater tout simplement que les faits qui lui ont soumis ne méritaient pas de poursuite, demande à la Cour, au procureur, d'orienter ses accusations vers l'article 28, et c'est là où on commence la recherche de preuves. Voilà déjà les incohérences. Alors, l'instruction s'est faite dans des conditions difficiles, on arrête les principaux conseils de Jean-Pierre Bemba, on fait des écoutes sauvages dans leur communication pour trouver de preuves contre Jean-Pierre. Et je vais continuer au niveau de la décision. La décision de culpabilité est là. Elle comportait des faiblesses, mais il y a aussi des forces. Notamment, on reconnaît que Jean-Pierre Bemba n'était pas l'acteur principal, c'est d'abord une affaire centrafricaine. On reconnaît que Jean-Pierre Bemba a pris des mesures. On reconnaît que Jean-Pierre Bemba a informé les autorités. On reconnaît que Jean-Pierre Bemba s'est manifesté par un comportement responsable. Mais lorsque la peine vient, on arrive à des incohérences. On parle de présence constante. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été en Centrafrique. Et sur le plan strictement du droit, je vais terminer par là, excusez-moi. Jean-Pierre Bemba n'a jamais exercé une responsabilité hiérarchique de commandement effectif. Il n'avait aucune autorité sur le troupe. Et les témoins, quand on lit aujourd'hui les jugements, on voit bien que Jean-Pierre Bemba n'était pas dans la chaîne de commandement. Ni commandement tactique, ni commandement stratégique, ni commandement opérationnel, ni encore commandement politique. Et plus grave, comment peut-on condamner quelqu'un pour des faits d'autrui sans qu'on dise qui sont les militaires qui ont commis le forfait?
Professeur.
Et le troupe de Jean-Pierre Bemba n'était pas seul là-bas. Alors, comment on peut savoir sur une constellation de troupes libyennes, centrafricaines, djiboutiennes, soudanaises, que c'est Jean-Pierre Bemba et ses hommes? C'est un procès unique et je crois sincèrement que la désorientation faite par Moreno sera corrigée au niveau de la paix.
Alors professeur, aujourd'hui même ici à Kinshasa, le MLC dans une conférence de presse considère que Jean-Pierre Bemba est plutôt victime d'une justice sélective orchestrée par, je cite, des officines complotant avec notamment des intelligences congolaises. Là, faisait clairement allusion au gouvernement congolais. Selon le MLC, le but de cette machination est d'écarter Jean-Pierre Bemba de la scène politique en RDC. Pourquoi le MLC indexe-t-il le gouvernement congolais? congolais dans ce verdict.
Mais l'MLC n'indexe pas le gouvernement congolais sur base de non-preuves comme la Cour. Lorsque l'affaire est amenée devant la Cour par M. Bozizé, lui-même, ancien chef d'état-major rebelle de M. Patassé, nous avons des éléments que les instigateurs, et aujourd'hui c'est écrit dans par les auteurs qui étaient conseillers de Bozizé et autres, que c'est le gouvernement de Kinshasa qui est derrière, on veut se débarrasser d'un adversaire politique. En fait, la dynamique des affaires qui sont devant la Cour, les affaires africaines exclusivement, il y a des affaires, au moins 5, qui sont initiées par le gouvernement en place contre les adversaires politiques, et 2 affaires initiées seulement par le Conseil de sécurité. Donc c'est une justice politique.
Donc Jean-Pierre Bemba est simplement victime de la politisation.
Les faits se sont passés en Centrafrique. Il y a eu 2 cas de viol. Il y a eu 2 victimes. Mais aujourd'hui, la question n'est pas cela. La question, est-ce que, en droit, Jean-Pierre Bemba doit répondre seul et doit répondre de ses faits dont la démonstration juridique de sa responsabilité n'est pas établie.
Merci,
et que c'est une affaire politique au-delà du gouvernement congolais. Nous avons encore d'autres officines qui ont été manipulées, fabriquées de preuves.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour de plus amples précisions. Dismas Kitenge, vous êtes vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH, également président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme basé à Kisangani. La FIDH a joué un rôle important dans ce procès. Pour vous, comment vous analysez cette peine?
Merci beaucoup. Pour la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et ses organisations membres à Centrafrique et ses organisations partenaires en Afrique et partout dans le monde, nous saluons cette décision-là de la Cour de condamner M. Jean-Pierre Bemba à 18 ans de peine de prison. Ensuite, nous félicitons la Cour pour avoir pris cette décision qui marque une rupture avec l'impunité des crimes internationaux qui se commettent en Afrique et particulièrement dans le cadre de conflits armés qui sévissent par-ci par-là. Troisièmement, cette décision vient encourager les victimes de ces crimes internationaux qui ont été commis en Centrafrique dans leur quête de justice, dans leur quête de vérité, dans leur quête de réparation. Et bien sûr, nous attendons les mesures de réparation qui seront décidées par le juge. Donc, pour la FIDH, ces organisations membres en Centrafrique, et les victimes que nous avons encouragées, puisque nous sommes du côté des victimes, pour lutter contre l'impunité des crimes internationaux, pour également, pour que les victimes puissent avoir droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation, c'est une décision historique. C'est une décision historique, puisque pour la première fois, on condamne quelqu'un à des peines assez importantes, 18 ans, mais aussi pour les crimes sexuels. Les crimes sexuels qui sont des crimes internationaux, qui font partie des crimes internationaux, des éléments constitutifs des crimes internationaux, ces crimes sexuels sont des crimes graves, puisqu'il faut reconnaître que les éléments armés de l'IMLC qui étaient partis à Centrafrique ont commis ces crimes-là, ont commis beaucoup de crimes, parmi lesquels les crimes les plus graves, les crimes de viol, les crimes de violences sexuelles, autres formes de violences sexuelles, qui portent atteinte à l'intégrité physique, qui considèrent le corps de la femme comme un champ de bataille, qui dénigrent la femme. Donc ces crimes-là devraient être punis par la Cour pénale internationale. Ce qui aussi est très, très important à souligner, que cette combat de victimes de ces actes-là pour avoir droit à la vérité, pour voir la justice, ne tient pas compte de responsabilité que les personnes ont exercé ou exercent. Ça veut dire qu'il faut faire une différence nette entre le politique et le judiciaire. Et le procès Bemba a été un procès exclusivement judiciaire, qui n'a pas connu d'influence, puisque cette cour est indépendante, cette cour est voulue par beaucoup d'États, y compris l'État congolais, y compris l'État centrafricain, puisqu'il est question des crimes qui ont été commis sur le territoire centrafricain. Donc, bref, c'est un encouragement important pour les victimes et il faut le souligner. C'est la première fois dans tous les procès qui se passent à la Cour pénale internationale que les victimes aient participé à un grand nombre. Il y a eu plus de 5000 victimes qui ont participé à ces procédures. C'est pour montrer l'acharnement, c'est la valeur du combat, l'acharnement à voir la vérité, à voir la justice. Et nous pensons que ces procès contribuent à une partie, à l'éclatement d'une partie de la vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Et c'est là que la FIDH reste aussi ferme vis-à-vis de la politique pénale du procureur, de la procureure maintenant, Madame Fatou, pour dire que il faut qu'elle pousse plus loin. Bemba, nous le disons, nous n'avons rien à la FIDH contre M. Bemba. Nous, c'est en dehors de la personne, quelle que soit la personne qui commet ces crimes, ce qui nous intéresse, c'est l'auteur, en dehors de ces fonctions-là. L'auteur, la lutte contre l'impunité, quelle que soit la personne qui aurait commis ces crimes, la FIDH, avec les victimes, aux côtés des victimes, aurait fait le même combat. Donc, c'est dit, ce n'est pas M. Bemba, comme acteur politique congolais qui nous a intéressés, la FIDH n'a aucun acharnement à faire contre M. Bemba, mais on aurait fait ça contre toute autre personne, que ce soit centrafricain, que ce soit congolais, qui aurait commis ces crimes-là. Donc, c'est la lutte contre l'impunité.
Alors,
la quête de victimes.
Voilà, je vous redonne la parole tout à l'heure. Patrick Chibouy, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Serge Moussan, je vous appelle de Kinshasa. La CPI, à mon avis, devait être une juridiction exemplaire avant que le verdict du procès Bemba soit un exemple à son tour pour les autres dirigeants africains. Comment comprendre que c'est celui qui a été invité qui est condamné sans que le camp de celui qui l'a invité, tout comme dans les camps de celui contre qui il est allé se battre, personne ne soit interpellé. Comment croire à la crédibilité des enquêtes rendues possibles par Bozizé, qui en réalité fut le rebelle contre qui Jean-Pierre Bemba s'est battu? Il y a des raisons que les Africains ne croyons plus à cette juridiction, en laquelle nous avons vu les saluts de tout un peuple.
Patrick Chibouy, réaction.
Oui, je crois que cette préoccupation rentre aussi un peu dans un des éléments qui a été aussi soulevé dans le débat, la question de la politisation, la question de l'instrumentalisation. J'aimerais vraiment rassurer les auditeurs qui nous suivent que la Cour pénale internationale ne peut pas être instrumentalisée et qu'elle ne peut pas être politisée. Et comme l'a dit M. Dismas Kitenge, ce qui est fait est strictement judiciaire. Le procureur est une partie au procès. Les maîtres de la procédure, ce sont les juges. Et je peux même citer deux garde-fous importants qui montrent comment est-ce qu'en fin de compte, il n'y a aucun risque de politisation ni d'instrumentalisation. Au niveau, par exemple, de la délivrance, déjà au niveau de la délivrance des mandats d'arrêt. Le mandat d'arrêt, certes, est demandé par le procureur, ou la citation à comparaître, c'est le procureur qui le demande sous requête, mais ce sont les juges qui décide de délivrer un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître. Et l'article 58 du statut de Rome donne les conditions juridiques et factuelles que les juges doivent voir établies pour délivrer un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître. Ensuite, avant qu'on en arrive au procès, nous avons au niveau de la procédure à la CPI, ce qu'on appelle l'audience de confirmation de charge. Et là encore, ce n'est pas le procureur qui décide de renvoyer en procès une personne, mais c'est plutôt les juges. Le procureur, à l'issue de l'audience de confirmation de charge, les juges peuvent décider de ne pas confirmer les charges. À ce moment-là, il n'y aura pas procès, et on l'a connu. Le cas de Kalis Marouchimana, arrêté sous demande du procureur après que les juges aient délivré le mandat d'arrêt, à l'audience de confirmation des charges, les mêmes juges qui avaient délivré le mandat d'arrêt. Arrivé au niveau de la confirmation des charges, puisque là encore, l'article 61 donne des conditions spécifiques, factuelles et juridiques pour que les charges soient confirmées, ces mêmes juges ont considéré que les charges ne pouvaient pas être confirmées au regard de l'article 61 et donc ont rejeté les charges et ont décidé qu'il n'y aurait pas procès. Ensuite, au niveau du procès, c'est d'autres juges, des juges de la chambre de première instance, qui s'occupent du procès. Et le statut dit
à l'article 66 pour que les juges soient convaincus de la culpabilité, soit pour que les juges puissent condamner un accusé, ils doivent être convaincus de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Donc si vous voyez déjà au niveau de la procédure, vous allez remarquer qu'il y a tellement de tamis judiciaires qu'il n'y a aucune possibilité d'instrumentalisation ou de politisation. Si le procureur avait estimé en son temps, au regard du mandat d'arrêt, que M. Jean-Pierre Bemba devait être poursuivi sous base de l'article 25, les juges ont la possibilité, et cela est reconnu par le statut, de modifier la qualification des charges. Et ça, ça se voit même en procédure pénale de manière générale. Donc il y a la possibilité de requalifier les charges, et c'est ce qu'ont fait les juges. Et un deuxième élément, un tout dernier, qui rassure d'aucun risque d'instrumentalisation ni de politisation, c'est le caractère permanent de la Cour pénale internationale. Même si nous n'avions pas une affaire à l'encontre de M. Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale serait toujours restée, on aurait toujours eu un procureur, on aurait toujours eu des juges. Donc la Cour pénale internationale ne lit pas sa... Elle n'est pas d'affaire. Merci. Cette cour, étant donné qu'elle est permanente, elle va continuer à exister. Donc, en conséquence, la cour n'a pas besoin de susciter des affaires pour justifier son existence. Parce que, par nature, elle a une nature intrinsèque, celle d'être une juridiction.
Merci Patrick Tchibouyi. Professeur Djoli, a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Pascal Moussenda, depuis Bukavu au sud Kivu. La condamnation de Jean-Pierre Bemba est un signal fort pour d'autres personnalités et dirigeants qui commettent de près ou de loin des violations graves des droits de l'homme, pensant qu'ils sont au-dessus de la loi. Il serait important que la CPI se saisisse d'autres cas de crimes qui se commettent au quotidien à l'RDC, mais aussi renforcer dans la mesure du possible, les cours des tribunaux militaires congolais reconnus compétents pour poursuivre certains crimes graves, comme les crimes contre l'humanité, afin d'épauler la CPI.
Professeur, j'ajoute cette réaction de John qui nous écrit de Kinshasa, qui dit « La loi est dure, mais elle reste la police d'interpellation des consciences avisées. Cette condamnation constituera une jurisprudence pour tout responsable politique, militaire ou civil, de bien constituer son passé, entretenir son présent et préparer son avenir, car à mon avis, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. »
Oui, tout à fait d'accord avec les deux intervenants, mais... Comme nous voulons, pour que cette pédagogie dont on parle, dont nous ressasse, puisse produire ses effets, il faut que la justice obéisse aux standards, que le droit soit le droit. Lorsqu'on voit l'article 28 qu'on veut exciper à titre de pédagogie, on dit que ça concerne un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire. Est-ce que Jean-Pierre Bemba était le chef militaire des hommes qui étaient en Centrafrique? C'est ça la question fondamentale. Et lorsque on parle de crimes graves, oui, j'ai bien suivi la théorie de M. Dismas Kitenge. Il était membre du Lotus. Est-ce qu'il peut me dire quand est-ce que ceux qui ont bombardé la ville de Kisangani seront poursuivis? Aujourd'hui, il s'est réjoui que ce soit une affaire centrafricaine parce que la FIDH, nous le savons, qui est derrière toute cette manœuvre qui se sont passées en Centrafrique? Qui est derrière telle ou telle autre organisation de droits de l'homme qui est en train de qui a suscité cette affaire? Nous n'avons pas dit que les choses ne se sont pas passées en Centrafrique. Au contraire, Jean-Pierre Bemba a écrit à la FDH. Est-ce que M. Desmas Kitenge peut me dire la réponse? Parce que Jean-Pierre Bemba devait sanctionner, il est allé en Centrafrique, il a écrit même au secrétaire général des Nations Unies, pour reprocher, pour mettre la responsabilité sur un individu, il faut lui dire qui sont les personnes qui ont violé. Il ne suffit pas de dire le troupe du MLC. Quelle troupe? Il y en avait plus ou moins 9 groupes. Comment le juge a-t-il pu dire que ce sont les gens du MLC?
Donc c'est indéterminé selon
c'est
vous.
C'est indéterminé. Et c'est à partir de ce moment-là où ça choque la conscience juridique. On parle de pédagogie, 18 ans. Mais la pédagogie en droit pénal, ce n'est pas une science aveugle. Il faut que la peine soit appliquée à celui qui a commis l'infraction.
Il ne faut pas commencer comme ça, pour des raisons purement pédagogiques, sanctionner les gens. Je vais vous donner encore un autre exemple. Les troupes de Jean-Pierre Bemba sont arrivées en Centrafrique en octobre 2002 et ils ont quitté en mars 2003. Soit 5 mois. Et il y avait 1500 hommes qui étaient sous le commandement de ce qu'on appelle le centre de coordination des opérations. Les témoins, le colonel Lengbe, puisque c'est aujourd'hui sur la place publique, dit que c'est moi qui coordonnais. C'est tel colonel de MLC, il me rendait compte. Jean-Pierre Bemba n'a rien à voir dans sa chaîne de commandement.
Et donc pour vous, professeur, Jean-Pierre Bemba reste victime d'un complot national et international.
Je ne vais pas jusque-là, mais je dis que c'est un mal jugé. Ce jugement ne répond pas au principe élémentaire de droit pénal, aussi bien interne qu'international. Alors, on me dit qu'on a commis 10 000 viols. Mon cher ami, 1500 hommes, en 5 mois, 10 000, c'est-à-dire qu'ils ne se battaient pas, ils étaient tout en train de faire des crimes sexuels. Mais je crois que les troupes de Jean-Pierre Bemba étaient en Centrafrique avant. Est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qu'ils ont commis comme infraction? Donc, nous disons qu'il y a eu des bévues, mais même la FDH, à qui Jean-Pierre Bemba écrit, n'a pas donné le nom d'un seul soldat congolais de MLC qui a violé ou qui a pillé. Ce sont deux élucubrations. Et lorsqu'on dit qu'il a pillé telle maison, on dit voilà, il a pris un vélo. Mais je crois que la vie d'un homme ne peut pas être sacrifié au nom de la propagande pénaliste internationale. La Merci Cour pénale internationale a démontré ses limites.
Merci, professeur.
Et n'a pu trouver comme matière que l'affaire Bemba et quelques affaires congolaises. Merci On voudrait ça. L'attendre sur d'autres champs opérationnels.
Merci, professeur Dismas Kitenge. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Tshikapa.
Je suis Alex Eko de Tshikapa. Je suis tout à fait d'accord qu'on rende justice aux victimes centrafricaine. En revanche, je ne suis pas d'accord qu'on fasse porter le chapeau à Jean-Pierre Bemba seul. Il est anormal que ni le président Patassé, ni ses généraux, ni même ses militaires incriminés n'aient été poursuivis jusqu'alors. La question légitime qui me vient à l'esprit est à quand des jugements similaires à l'encontre des criminels de Beni, de Litouri, de Makobola, etc. Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette première condamnation en tant qu'Africains? Devons-nous continuer à faire confiance à la CPI ou bien, au contraire, devons-nous multiplier des chambres africaines extraordinaires comme ce fut le cas avec Hissène Habré?
J'ajoute deux réactions pour vous, Dismas Kitenge, Ivan Placideto. C'était trop prévisible parce qu'il y a une main noire derrière. Jadot Chahidi de Bukavu, le sénateur Jean-Pierre Bemba, est victime d'un conflit politique qu'il a eu après les élections de 2006 vis-à-vis du pouvoir actuel de la RDC. Bien qu'il ait été poursuivi et condamné pour l'affaire de la RCA, une main noire de nos dirigeants doit être derrière ce dossier, Dismas Kitenge.
Merci beaucoup. Je pense que le premier élément de réponse que je donne, c'est que les Africains, nous devons construire des systèmes judiciaires indépendant, efficace et fiable dans nos pays, pour que nous puissions être en mesure de juger, de poursuivre et de juger les personnes qui commettent les crimes internationaux devant nos juridictions. La Cour pénale internationale n'est que complémentaire aux juridictions nationales. La Cour ne remplace pas les cours des tribunaux nationaux. La Cour vient au secours. Quand on doit saisir la Cour, on n'a pas dit ça. Pour les cas de la République centrafricaine, le président de la République centrafricaine, à l'époque, M. Bozizé, agissant au nom de son État, qui a renvoyé le dossier des crimes internationaux devant la Cour, c'est-à-dire qui a saisi la Cour pénale internationale, pour dire deux choses. À l'état actuel de son pays, le pays n'avait pas le moyen, le moyen de poursuivre et de juger ces crimes devant ces tribunaux, et qu'il y avait aussi des problèmes de volonté politique, et ainsi de suite. Donc, ça c'est la première chose que nous, Africains, nous devons savoir. Deuxième chose, c'est que nous ne devrions pas seulement voir les auteurs pour pouvoir les protéger, ou pouvoir justifier leurs actes.
mais nous devons nous mettre aussi du côté des victimes. Les nombreuses victimes des actes commis par une poignée de gens qui sont revêtus de l'autorité, des droits ou des faits d'un État. Et pour le cas de, en espèce de M. Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas été sur le terrain, mais qui a envoyé ses troupes se battre aux côtés de troupes gouvernementales de Ange-Félix Patassé, qui ont commis des crimes avec les troupes de Patassé, et les troupes de Bozizé aussi ont commis. Mais les victimes sont là, et que nous ne devons pas seulement voir les auteurs, nous devons voir aussi les victimes. Les victimes qui souffrent dans leur chair, dans leur corps.
Dis-moi ce qui
t'est mis. France-là ont droit à la vérité, ont droit à la justice, ont droit à la réparation. Et la Cour pénale internationale, c'est une cour indépendante qui a été acceptée par les États pour construire le système judiciaire au niveau tant international que national.
Dis-moi ce qui t'engue, vous faites allusion aux victimes. Maître Mathias Moruba, président de l'OCEDH et avocat des victimes, a déclaré que la prochaine étape consiste maintenant à déterminer si M. Bemba pourra, sur ses propres fonds, dédommager les milliers de victimes de ces crimes. Est-ce que cela pourrait être possible?
Oui, cela peut être possible, puisque M. Bemba n'a pas été reconnu indigent. Pour avoir exercé de hautes fonctions dans notre pays, pour avoir disposé également de moyens qui ont été répertoriés, identifiés, si et là, par la Cour pénale internationale, ces moyens ont été gelés en attendant cette décision. Nous pensons qu'une partie, de la fortune de M. Bemba peut aider à la réparation des dommages graves subis par ces victimes. Mais nous savons que ça ne va pas suffire, puisque les victimes sont nombreuses. Mais il faudrait aussi que le fonds au profit des victimes soit mis en valeur en termes de contribution, puisque la Cour a créé depuis des années le fonds au profit des victimes, et ces fonds-là aident pour la réparation des victimes sous diverses formes. Donc nous, on pense que les juges, dans leur indépendance, puisqu'ils sont véritablement indépendants, il faut leur faire confiance. Ces juges-là prendront des mesures de réparation qui tiendront compte de différents éléments en faveur de ces victimes qui ont participé à la procédure, aux différentes procédures de la Cour pénale internationale.
Merci, Dismas Kitenge. Patrick Tchiboui, on sait que Jean-Pierre Bemba n'en a pas encore fini avec la CPI. Il est également poursuivi pour subornation des témoins. Qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs et analystes qui craignent que cette peine de 18 ans ne puisse s'alourdir avec l'autre affaire?
À ce stade ici, on ne peut pas faire un quelconque commentaire par rapport à la seconde affaire, parce que comme vous le savez, nous sommes pendant, ce sont les délibérations, donc nous attendons le verdict par rapport à cette seconde affaire, donc il n'y a aucun, il n'y a pas de spéculation à faire là-dessus. Nous tous, nous attendons la décision que les juges rendront. Ça peut être un acquittement, ça peut être une décision de culpabilité, mais on n'en est pas encore là. Donc ça, c'est encore dans le secret des juges, et une fois que les juges auront fini leur délibération, les juges nous feront connaître leur décision. Mais j'aimerais peut-être rebondir, hein, pour revenir encore à cet élément fondamental de la motivation du jugement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont cités. Si vous regardez très bien, vous lisez le jugement quant au verdict, vous allez voir que les juges, à leur niveau, à ce stade ici, n'ont pas mis de côté, par exemple, le fait que M. Jean-Pierre Bemba avait écrit à des organisations internationales comme la FIDH. Non. Mais les juges ont estimé dans leur jugement qu'au regard de l'article 28, qui exige que le chef supérieur puisse prendre les mesures nécessaires et raisonnables, d'ailleurs, dans le jugement, dans la motivation, les juges listent un certain nombre d'actes de comportements ou de décisions que pouvait prendre M. Jean-Pierre Bemba au regard de sa position qu'il n'a pas pris. Il ne nie pas ce qui avait pu être fait, que ce soit des commissions qui avaient été mises en place. Dans le jugement, cela n'est pas nié. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur l'intérêt de lire attentivement le jugement pour savoir les éléments retenus. Dans le jugement, les juges reprennent les éléments de fait, les arguments de la défense comme du procureur, et à chacun de ces arguments, les juges donnent des réponses et arrivent à leur conclusion.
Merci Patrick Tchibouille. Professeur Djoli, il y a Jimmy Faliala de Goma en Nord Kivu qui dit « Quel avenir pour le MLC qui doit ipso facto cheminer sans son créateur principal ?» Je crains vraiment, dit-il, que cette condamnation n'ait un impact sur la santé du MLC.
Je crois qu'à ce moment précis, ceux qui s'inquiètent de la santé du MLC peuvent se calmer. L'MLC a bien évolué pendant 8 ans sans Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, l'MLC, Jean-Pierre Bemba n'est pas la personne de Bemba. C'est une idée, c'est un somme de valeurs et de principes. Mais revenons au procès et à l'arrêt, monsieur journaliste. Comment peut-on accepter que monsieur Bozizé, ancien chef d'état-major de Patassé, qui lui-même est devenu rebelle, qui était donc l'autre partie avec laquelle l'MLC se battait, que cette personne a pu saisir la cour et devenir, n'est-ce pas, le plaignant. C'est ridicule. Donc on ne devait même pas accepter cette plainte de M. Bozizé.
Il devait être jugé irrécevable.
Oui, parce que M. Bozizé était une partie au conflit. Deuxièmement, puisqu'on nous parle de lire ce texte, ce jugement est plein d'incongruités juridiques. On dit, les forces du MLC placé sous les contrôles de M. Bemba. Une fausseté. Lorsqu'on parle d'une présence constante de M. Bemba, mais à 2000 km ou à 8000 km, vous voyez, présence, constance. Alors que la présence, ça doit être effectif. C'est une congruité. Quand on dit que tous les efforts faits par Jean-Pierre Bemba pour punir, pour essayer d'avoir les auteurs de ces crimes, notamment auprès de la FDH, oui, non, ce sont des actes pour chercher à restaurer l'image publique du MLC. C'est ridicule. Lorsque on dit dans un jugement sans preuve que Jean-Pierre Bemba a encouragé l'attaque systématique de la population civile, mais est-ce qu'on sera contre d'une telle malhonnêteté dans un jugement? Et plus tard, quand on lui trouve aucune circonstance atténuante, au contraire, on lui trouve des circonstances aggravantes, en contradiction avec la décision sur la culpabilité. C'est donc du non-droit, et c'est un acharnement, et cet acharnement, nous savons que c'est un acharnement instrumentalisé par des forces obscures et des gouvernements qui avaient intérêt à, n'est-ce pas, écarter M. Jean-Pierre Bemba.
Alors, professeur, en guise de conclusion, parce que l'émission va se terminer, quelle leçon pouvez-vous tirer de cette affaire?
La première leçon, c'est que la Cour pénale internationale s'est totalement fourvoyée et que les États qui n'ont pas, n'est-ce pas, ratifié les traités de Rome, notamment les grandes puissances, utilisent maintenant la Cour pour régler des comptes aux dirigeants qui ne leur plaisent pas.
Deuxièmement,
les Africains ont raison de poser la problématique de l'existence de cette cour, qui est une cour qui s'occupe, n'est-ce pas, de faibles.
Et enfin,
troisièmement, il faut que la cour se ressaisisse. Vous savez, il y a un magistrat, plutôt un juge, une japonaise, qui est morte malheureusement, mais qui n'était même pas juriste, donc qui était membre de cette haute cour.
Merci, professeur.
Donc c'est une cour qui est totalement à refaire.
Merci.
Et nous espérons qu'au niveau de l'appel, les choses seront réqualifiées.
Merci. Bismas Kitenge, quelle est votre conclusion?
Conclusion en 4 mots. Le premier mot, c'est le courage et la détermination des victimes a permis que ce procès se tienne et que nous ayons ce courage, cette décision-là qui satisfasse aujourd'hui les victimes. Donc ça, c'est bon. Deuxièmement, c'est un signal fort que la Cour lance contre tous les chefs militaires, contre tous les chefs politiques qui commettent des crimes et qui croient qu'ils resteront, qu'ils resteront impunis. Donc voilà, c'est un signal fort pour que cesse ces crimes-là, et que c'est l'impunité en Afrique. Troisièmement, c'est que c'est une installation pour les États africains, pour qu'ils construisent des systèmes judiciaires indépendants, efficaces et crédibles, pour que les crimes internationaux soient aussi jugés en toute indépendance. Quatrième élément, et le dernier, c'est que la Cour pénale internationale, qui agit en complémentarité des juridictions nationales, c'est une cour crédible, c'est une cour lorsque les instances judiciaires nationales ne sont pas capable, c'est une cour de référence, de l'honneur et coût qui peut donner satisfaction et vraiment consacrer tous les principes d'un droit à un procès équitable.
Merci. Patrick Tchibouille, conclusion.
Alors, très rapidement, la première chose, c'est que j'aimerais insister sur le fait que la Cour pénale internationale ne peut pas être instrumentalisée. La Cour n'est pas politisée, il n'y a aucune main noire, aucune main basse. Tout ce qui a été fait est certainement judiciaire. Et j'aimerais encore insister, deuxièmement, sur l'importance de lire le jugement. Parce que ce n'est qu'en lisant le jugement qu'on peut avoir les éléments qui ont été retenus par le juge. Les juges n'ont statué que sous les éléments de preuve. Ils n'ont rien fabriqué. Ils ont statué sous les éléments de preuve présentés par la défense et présentés par le procureur. Et en fin de compte, un troisième élément, c'est qu'il y a le voie de recours. Si une des parties n'est pas satisfaite du jugement qui a été rendu, cette partie peut interjeter appel et l'appel est un droit fondamental dans le cadre du procès équitable.
Merci.
Enfin, un dernier élément, c'est qu'étant donné que la Cour est une juridiction permanente, la Cour n'a pas intérêt ni besoin de créer une quelconque affaire.
Merci.
Ou d'utiliser qui que ce soit comme étant un cobaye parce qu'elle est permanente.
Merci,
même si on n'a pas d'affaire, la Cour continuera à exister. Donc,
merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.